RFI Matin, on reste ensemble tout de suite, les principaux titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Emmanuel Macron sera à Mayotte demain. François Bayrou, son premier ministre, lui, emboîtera le pas dès que son gouvernement sera formé afin de mobiliser la totalité des moyens de l'État. C'est ce qu'il a déclaré hier sur France 2. Mayotte, 101e département français, littéralement dévasté samedi par le cyclone Chido. Sur place, la situation humanitaire se dégrade. Quelques 100 tonnes de nourriture seront distribuées aujourd'hui à Grande Terre. 20 tonnes dans les deux communes de Petite Terre. Le bilan fait pour l'heure état de 22 morts et près de 1400 sans blessés, même si les autorités redoutent jusqu'à des milliers de morts. Mayotte a passé une première nuit sous couvre-feu afin d'éviter les pillages. En Syrie, près de 10 jours après la chute de Bachar al-Assad, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à ce que le processus politique dans le pays soit inclusif et mené par les Syriens. Le Japon juge regrettable la libération de Paul Watson, déclaration de Tokyo au lendemain de la remise en liberté du militant écologiste décidé par le Danemark. Les recherches se poursuivent au Vanuatu pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Après l'important séisme survenu hier, le bilan officiel fait pour leur état de 14 morts. Et puis cette annonce ce mercredi de l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de charbon a atteint un niveau record en 2024, mais elle devrait se stabiliser jusqu'en 2027. 7h45 à Paris, c'est la revue des journaux africains. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, après Mayotte, le Mozambique.
Image de désolation sur le site du quotidien mozambicain Noticias. Après le passage du cyclone Chido, toit envolé, arbres déracinés, débris dispersés. Dernier bilan, pointe le journal, au moins 34 morts, au moins 319 blessés et plus de 34 000 familles touchées. Compte tenu de la gravité du phénomène, des brigades de secours et des officiels se rendront ce mercredi dans les zones touchées par la catastrophe en vue d'évaluer les dégâts et d'apporter tout le soutien nécessaire à la population. D'après le site de la télévision mozambicaine TVM, plus de 400 000 habitants du district d'Erati dans la province de Nampula risquent de souffrir de la faim dans les tout prochains jours en raison donc du passage du cyclone Chido qui a détruit une partie des excédents agricoles. Alors que la zone est toujours dans l'obscurité, le gouvernement appelle à une surveillance accrue car il est à craindre que la situation encourage l'entrée de terroristes, affirme TVM, compte tenu de la proximité de ce point avec la province plus au nord de Cabo Delgado. Cette province du nord du pays est en effet, rappelons-le, en proie à une insurrection djihadiste, le groupe Ansar al-Sunna, affilié à l'État islamique.
Le site panafricain afrique.com précise que les trois provinces les plus touchées sont Cabo Delgado, donc Nampula et Niassa.
Oui, les vents violents ont soufflé jusqu'à 260 km/h face à l'ampleur de la catastrophe. Les autorités mozambicaines ont lancé un appel à la solidarité internationale. Les besoins sont immenses, abris, nourriture, médicaments, eau potable. La communauté internationale est appelée à se mobiliser pour venir en aide aux populations sinistrées. Afrique.com qui rappelle aussi qu'avant de frapper le Mozambique, le cyclone Chido a ravagé l'archipel français de Mayotte. Les autorités redoutent un bilan humain très lourd, évoquant même la possibilité de plusieurs centaines, voire de milliers de morts. Chido est le cyclone le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans.
Mais contrairement à Mayotte, au centre de toutes les attentions des autorités et des médias français, le Mozambique, pratiquement personne n'en parle, c'est du moins ce que relève le Djeli en Guinée.
Oui, accueilli avec un certain fatalisme, la catastrophe est même reléguée au second plan par la crise post-électorale qui a éclaté en octobre dernier avec la contestation de l'élection de Daniel Chapo par Venancio Mondlane, même si ce dernier a annoncé une pause de quelques jours pour rendre hommage aux victimes de l'ouragan. Aucune communication non plus de la part des instances sous-régionales et panafricaines, déplore encore le site guinéen. Ce sont les organisations humanitaires internationale, dont l'UNICEF, qui se mobilise pour attirer l'attention du monde sur ce qui s'y passe et sur les risques sanitaires qui pourraient en découler. Une indifférence qui n'est pas sans rappeler le manque de mobilisation de nos États face aux enjeux liés au changement climatique, s'agace encore le Djeli. En effet, alors que des catastrophes comme Chido aujourd'hui et Freddy l'année dernière nous rappellent l'urgence de la mobilisation, force est de constater que les États africains traînent les pieds face au changement climatique. Très souvent, ce sont les sociétés civiles africaines qui sont sur ce front.
Le quotidien aujourd'hui au Burkina Faso revient sur la situation à Mayotte.
Ce bout d'Afrique frappé par l'ouragan Chido, perdu au milieu de la mer où les inégalités et les retards de développement sont prégnants. Mayotte est le maillon faible de ces lointains territoires français, estime le quotidien Ouagalé. Et Chido n'a fait que mettre en exergue l'écart abyssal qui existe entre la vie à Mayotte et en France hexagonale. Excepté le passeport français de ces Mahorais, dont le tiers vient des Comores, qu'est-ce qui les distingue face à Chido, à un bout d'Afrique? Pas grand-chose, répond aujourd'hui. Et ce qui fait enrager les habitants de cette île, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont bien français sur le papier, mais qu'ils n'ont en réalité rien à voir avec un français de Paris, de Nantes ou encore de Bordeaux. Chido s'ajoute au malheur d'un territoire encombrant pour la France métropolitaine, où les problèmes politiques se greffent à d'autres économiques liés au pouvoir d'achat, à la sécurité ou encore à l'immigration.
Frédéric Couteau pour la revue des journaux africains. Et j'ajoute que RFI vous propose ce matin une édition spéciale sur la situation à Mayotte. Rendez-vous entre 8h10 et 8h30, heure de Paris.
RFI Matin.
C'était il y a un an, jour pour jour, le 18 décembre 2023, à minuit 5, très exactement. Le plus grand dépôt de carburant de Guinée explosait sur la presqu'île de Kaloum, à Conakry. Bilan, plus de 20 morts et plusieurs milliers de sinistrés. Et une enquête judiciaire ouverte à l'époque, je cite, pour incendie volontaire. Un an plus tard, où en sont les investigations? Que sont devenues les milliers de personnes dont les maisons ont été soufflées par cette explosion? Autant de questions que Christophe Boisbouvier pose à Mamoudou Sifo Kétouré, enseignant. Il préside sur place le comité des sinistrés de Kaloum. Il est en ligne de Conakry.
Mamoudou Sifo Kétouré, bonjour.
Bonjour.
Un an après, est-ce qu'on connaît les causes de la catastrophe?
Non, aucune idée, parce que nous n'avons reçu aucun enquêteur. Nous ne connaissons pas les résultats de l'enquête. Et pire, nous n'avons même pas reçu les condoléances d'usage.
Alors, suite à la catastrophe, une enquête judiciaire a été ouverte, je cite, « pour des faits présumés d'incendie volontaire ». Est-ce à dire que ce n'est pas un simple accident?
Oui, c'est le gouvernement qui a été le premier à alerter pour parler de présumé incendie criminel. Et c'est lui qui a les moyens de la police, des enquêteurs, pour faire connaître la vérité dans cette affaire. Parce qu'il s'agit des dizaines d'âmes perdues, brûlées dans le feu. Un feu qui les consumait pendant une semaine. Il s'agit du plus grave incendie de notre pays, de notre histoire. Cela ne peut pas passer inaperçu.
Alors certains évoquent l'hypothèse de voleurs de carburant qui se seraient introduits sur le site, qui aurait manipulé un objet.
Nous ne pouvons pas croire à cela.
Et qui aurait provoqué l'explosion.
Nous ne pouvons pas croire à cela, surtout qu'il y a eu une réelle volonté de spoliation de nos biens. Tout ce qu'on nous a dit dans cette affaire-là, tenez des sacs de riz, acceptez que vous soyez relogé à 50 km de Conakry, de Kaloum, vous allez quitter la capitale. C'était un plan de recasement que nous avons refusé. Nous disons non.
Alors à la suite de cette catastrophe, on se souvient, hein, il y a eu des messages venus du monde entier, de l'ONU, de l'Union africaine, du pape, de l'Union européenne. Est-ce que grâce à cette mobilisation, les sinistrés ont pu être secourus?
Bon, nous saluons cette mobilisation internationale. Il y a un nombre important de ménages qui ont reçu des sacs de riz. Ça a été un apport important pour nous. Mais nous avons voulu recevoir aussi les feuilles de tôle, les sacs de ciment qui ont été offerts par les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes autorités qui les ont reçus. Jusqu'à ce jour, un an après, nous n'avons pas reçu une feuille de tôle, un seul sac de ciment. Rien. Ces sacs de ciment, ces feuilles de tôle, ils ont totalement disparu. Pour aller où? Mais pire, il y a une volonté de spoliation de nos biens parce que les sommes d'argent qui ont été reçues comme nos dons, en remettant ça aux locataires, on leur dit c'est pour aller trouver des maisons ailleurs. Pourquoi? Nous ne vendons pas nos terrains. Il s'agit des biens qui nous appartiennent et nous ne sommes pas sur un domaine de l'État. Voilà.
Alors le 27 mai dernier, le Premier ministre Bahoury a annoncé 860 000 euros pour les sinistrés, avec notamment une enveloppe de 2 millions de francs guinéens pour chacun des 55 propriétaires et une enveloppe d'un million de francs guinéens pour chacun des 322 locataires. Est-ce que ce n'est tout de même pas un geste concret?
Nous savons qu'il y a eu quelques sommes qui ont été remises à quelques personnes. Mais je dis que la commission qui gère dans une opacité sans pareil. Il n'y a pas de communication. Qui a reçu? Qui a donné l'argent? Vient de qui? Mais pourquoi vous nous parlez toujours de libérer ces concessions pour que vous venez faire quelque construction? Nous disons non. Il y a une volonté de spoliation de nos biens.
C'est-à-dire que vous acceptez les indemnisations, mais vous n'acceptez pas de déménager et de quitter la presqu'île de Kaloum pour aller en banlieue, c'est ça?
Nous acceptons l'indemnisation. Ça, on est d'accord. Mais nous ne quitterons pas parce que ce n'est pas un domaine de l'État. Voilà.
Parce que la presqu'île de Kaloum, elle est au cœur du quartier de l'administration, hein, qui abrite notamment la présidence et la plupart des ministères. Et vous soupçonnez certains de vouloir vous faire déménager en banlieue pour pouvoir récupérer vos terrains qui sont évidemment très convoités, c'est ça?
Mais cela se confirme aujourd'hui parce qu'en lieu et place d'enquête, on nous parle toujours de recasement, de relogement. Alors, à partir de là, chacun peut tirer sa conclusion.
Vous voulez reconstruire vos maisons?
Oui, nous-mêmes, par les apports qui sont venus, c'est-à-dire ces feuilles de tôle, ces ciments et les montants qui les ont accompagnés, vous devez nous les donner. Pourquoi nous tenons à ces points-là? Parce que si nous ne sommes pas indemnisés, s'il n'y a pas d'enquête, il y a risque de récidive. Vous savez, la presqu'île de Kaloum, c'est quand même l'endroit la plus convoité du pays.
Parce que c'est là que se trouve la présidence.
Mais c'est ici que les terrains coûtent plus cher. Nous sommes les autochtones d'ici. Voilà.
Voulez-vous dire que l'objectif des gens qui ont fait exploser ce dépôt de carburant, c'était peut-être de vous chasser du quartier?
S'il n'y a pas d'enquête, chacun sera amené à tirer sa conclusion. Mais nous pouvons quand même avouer que nous n'avons pas été traités dignement. Ce qui amène à faire des interrogations quand même, à se demander le pourquoi de cette situation.
Pensez-vous à des criminels qui voulaient détruire le quartier pour pouvoir ensuite récupérer le terrain?
Nous attendons le résultat de l'enquête.
Mais vous pensez que c'est une hypothèse sérieuse?
Oui, à ne pas négliger, surtout que c'est un État qui a communiqué en disant qu'il s'agit d'un présumé incendie criminel. Tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de faciliter l'enquête. Quand il n'y aura pas de transparence, nous ne participerons pas à un débat, à une discussion sur le relogement sur nos maisons.
Mamoudou Sifo-Kétouré, merci.
Mamoudou Sifo-Kétouré, enseignant, il préside le comité des sinistrés des hydrocarbures de Kaloum et il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Maman, vous nous dites aujourd'hui que, quelle que soit la latitude, le cumul des mandats n'a pas bonne presse.
Oui, que ce soit en très très démocratique république ou ailleurs, le dicton préféré des hommes politiques a toujours été « abondance de biens ne nuit pas ». Eh oui, si tu as un mandat et que tu as la possibilité d'en voir un autre ou deux autres, mais ça te fera jamais de mal, mon ami. Dès qu'on dit « abondance de mandats » au Gondwana, tous les regards convergent irrémédiablement vers les hauteurs de Gondwana City, notre belle capitale, là où est niché le bureau de notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur. Et oui, comme dit un autre dicton, on ne prête qu'aux riches. Et donc, ce n'est que normal que président fondateur accumule les mandats les uns après les autres, les uns sur les autres, comme les perles d'un chapelet. Premier mandat, deuxième mandat, troisième, quatrième, cinquième, sixième mandat, etc. On n'arrive même plus à tenir les comptes parce que notre leader bien-aimé a empilé tellement de mandats que la constitution a été tellement modifiée, charcutée, tailladée, excisée, au point où aujourd'hui elle ressemble moins à une constitution qu'au frère Bogdanov. Mais bon, il y a plusieurs types de cumul de mandats. Celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire le cumul de mandats de président fondateur, c'est un cumul chronologique. C'est-à-dire que tu empiles les mandats les uns sur les autres tous les 4 ans ou 5 ans. Il y a un autre type de cumul de mandats, c'est quand tu as le don d'ubiquité. C'est-à-dire que tu accumules les mandats en même temps, en différents endroits, ici et maintenant, là-bas et maintenant, en même temps à Pau, en même temps à Matignon. Dans les cours de Sciences Po, les hommes politiques qui pratiquent ce type de cumul de mandats sont appelés des élus polygames. Ah oui, tu les reconnaîtras. Ils ont voté la loi interdisant la polygamie, mais freinent des quatre fers pour une loi contre le cumul des mandats, alors que c'est la même chose. En cours de sciences politiques et en classe matrimoniale de polygamie appliquée, tu apprends que l'élu cumulard a plusieurs bureaux, très souvent géographiquement éloignés les uns des autres. Il y a le bureau principal, qu'on appellera premier bureau, en général dans la capitale. Puis le deuxième bureau, le troisième, le quatrième bureau, etc., situé en région loin de la capitale. Parallèlement, le mari polygame a plusieurs femmes qu'on ne traitera pas de bureau, parce que c'est des épouses légales. En général, pour la paix des ménages, dans un mariage polygame, les épouses sont géographiquement éloignées les unes des autres, chacune dans son coin de la maison ou alors dans sa maison. Même si le mari polygame a un jet privé ou le TGV, même s'il a Zoom, Teams ou WhatsApp vidéo, il est comme l'élu cumulard, il ne pourra jamais être en même temps ici et là-bas, en même temps dans les maisons de ses différentes épouses, en même temps à Mamoudzou et à Pau. Les différences entre l'élu cumulard et le mari polygame, c'est que là où l'élu cumulard a plusieurs salaires, plusieurs indemnités, plusieurs retraites, des primes, des assistants, des chauffeurs, des billets d'avion, des bons d'essence, des cadeaux, etc., eh ben, le mari polygame galère avec un seul salaire pour faire vivre toute sa grande famille. Bon, en même temps, qui l'a envoyé? À demain.
À demain, maman, RFI, dans 2 minutes, le journal.
RFI, la sélection du mois.
Depuis qu'on n'est plus des sœurs,
Yua.
Je l'avouerai à contre-cœur. La vie me fait presque un peu peur et j'imagine toujours le pire.
Bombele.
RFI Musique.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Chantal Leroux.
Éphélide, lantiponée, capucinade, autant de mots méconnus, oubliés ou injustement ignorés. Dans son livre Miscellanée, Karine Dijoux chine les merveilles de la langue française, épingle les pléonasmes et démystifie l'art oratoire. La prof de lettres instagrammeuse est notre invitée.
Les langues s'expriment de vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours
avec vous.